Veillez-vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, comme vous le savez sans doute, on appelle ce dimanche le dimanche du bon pasteur. Et il y a bien des choses qu'on peut utiliser dans les deux magnifiques textes qui sont utilisés par la Sainte Église. Je pense qu'il y a deux thèmes essentiels qui se recoupe d'abord. Le premier, qui se recoupe d'ailleurs. Le premier, c'est l'amour de l'Église et l'amour de la papauté. Et le deuxième, c'est la haine du péché et l'amour du pécheur pénitent.
Ou
la haine du péché et la haine du pécheur non pénitent. Expliquant comme ça, c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ ? Je suis le bon pasteur. Et que veut ce pasteur? Un seul troupeau, un seul pasteur. Sous-entendu, le monde va se diviser en deux, ceux qui sont dans le troupeau et ceux qui sont dehors du troupeau. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que toutes les brebis viennent dans son troupeau et qu'elles lui obéissent. Parce qu'il sait exactement comment travailler avec ses brebis. Alors, l'Église a toujours interprété cet évangile magnifique de la même façon. Ce troupeau, c'est le bercail voulu par notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir l'Église catholique, une sainte catholique apostolique. Alors, essayons d'expliquer tout simplement en reprenant le catéchisme traditionnel. Quelles sont les conditions d'appartenance à ce troupeau? Quelles sont les conditions d'appartenance à l'Église catholique? Il faut se rappeler de ces temps tellement troublés d'aujourd'hui où les gens sont complètement déphasés à cause de toutes ces idées de faux écuménisme. On essaie de la faire croire qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, qu'on peut se sauver hors de l'Église catholique. Ce n'est pas du tout ce qu'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres quand ils sont partis à la conquête du monde? Allez, prêchez, baptisez. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est ça l'écuménisme de notre Seigneur. Mais il a justement envoyé les apôtres dans le monde entier pour demander aux apôtres de venir et retrouver l'unique bercail, précisément parce qu'il veut, c'est sa volonté expresse, que tous les hommes soient sauvés. Mais il n'est pas un conducteur d'esclaves. Les animaux, dehors, ils suivent la loi du bon Dieu. Ils ne peuvent pas faire autrement. Au printemps, les oiseaux, ils savent qu'ils doivent construire un nid. Il n'y a pas un oiseau qui va se révolter en disant « Moi, j'ai décidé de ne pas construire mon nid parce que je n'ai pas envie de construire mon nid à cette époque de l'année. » Non, ils ont un instinct qui est marqué dans la nature et ils sont obligés de suivre cet instinct parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils ont une âme sensitive, ils ont une âme végétative, mais ils n'ont pas d'âme intelligente, ils n'ont pas d'âme raisonnable. Nous, au contraire, le bon Dieu a voulu nous diriger, mais il a voulu que nous participions à cette direction. Donc il veut que, de notre côté, nous répondions à cet appel du bon Dieu. Il nous indique le chemin, voilà le chemin qu'il faut faire, voilà le chemin qu'il faut suivre, pardon, voilà la bonne direction qu'il faut suivre, mais il nous laisse libres, malheureusement, de refuser. C'est ça le drame. Mais c'est en même temps, ça, la preuve extraordinaire de l'amour qu'a notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, précisément parce qu'il respecte notre libre arbitre, et ceux qui refusent de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, hélas, sont libres de le faire. C'est pour ça que l'Église catholique, c'est dans toute lettre encore dans le catéchisme, divise justement l'Église, qui est le corps mystique du Christ, en deux parties, le corps et l'âme de l'Église. Le corps de l'Église, la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Parce que le baptême est la première porte qui permet de rentrer dans l'Église. Et l'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui vivent en état de grâce. Alors est-il possible pour quelqu'un d'appartenir au corps de l'Église sans appartenir à l'âme de l'Église? Malheureusement, oui. On est entouré ici, ce petit village de Padiès, on est entouré de braves paysans qui sont pratiquement tous membres du corps de l'Église, sont pratiquement tous baptisés, je pense. Et pratiquement tous aussi ne pratiquent pas. Donc ils appartiennent au corps sans appartenir à l'âme. Est-il possible d'appartenir à l'âme de l'Église sans appartenir au corps de l'Église? L'Église enseigne que oui. C'est le cas d'un baptême de désir, explicite ou implicite, ou d'un baptême de sang. Seul Dieu sait exactement dans quelles conditions quelqu'un peut avoir un baptême de désir implicite, mais il est possible pour quelqu'un qui vit en état de grâce, de vivre en état de grâce sans être baptisé avec un baptême d'eau. C'est pour ça que l'Église accepte l'existence d'un baptême de désir. L'exemple très connu, c'est l'exemple de l'empereur Valentinien qui était préparé au baptême par l'évêque de Milan, saint Ambroise, qui a été tué à la guerre juste avant d'être baptisé. C'est saint Ambroise lui-même qui a fait la messe d'enterrement, qui a bien expliqué dans un fameux sermon que cet homme qui n'était pas encore baptisé avait un baptême de désir explicite et qu'il était sauvé. Alors malheureusement, on est tous tentés un petit peu à cause de cette distinction à rester simplement dans le corps de l'Église et oublier qu'il faut être membre de l'âme de l'Église pour être sauvé. L'âme de l'Église, c'est quoi? C'est la charité. Si je n'ai pas la charité, nous dit saint Paul, je ne suis rien. Donc, l'entrée dans l'Église par le baptême n'est pas suffisante. Il faut aussi la pratique de la foi catholique. La pratique de la foi catholique, c'est le texte de saint Pédis, là, il nous dit expressément, la pratique de la foi catholique, c'est quoi? C'est la vertu de charité. L'union à notre Seigneur Jésus-Christ par l'obéissance à sa loi, c'est ça la vertu de charité. Beaucoup de gens sont dans le corps de l'Église, mais leur cœur n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en ce dimanche du bon pasteur, posons-nous cette question toute simple. Où est mon cœur? Avec mon cœur, qui aime, est-ce que j'aime en premier? Qui est la personne la plus importante au fond de mon cœur? Ou est-ce qu'au contraire, mon cœur est avec le monde? Il y a beaucoup, beaucoup de catholiques qui sont comme ça. Leur corps est avec notre Seigneur Jésus-Christ, leur cœur est avec le monde, avec les trois concupiscences. Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il juge pas les corps, il juge les cœurs. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ peut déterminer que quelqu'un qui n'a pas encore un baptême d'eau, mais qui au fond lui-même vit en état de grâce parce qu'il a cet amour du bon Dieu, ce qui est possible, par exemple, c'est le cas des martyrs dont beaucoup n'étaient pas encore baptisés avec un baptême d'eau. Dieu qui juge l'âme de l'Église, qui juge ce qui se passe à l'intérieur du cœur, sait que si cette personne est attachée à notre Seigneur Jésus-Christ, justement par un baptême de désir, même s'il n'a pas encore reçu le baptême d'eau, cette personne est sauvée. C'est ce qu'a toujours enseigné l'Église catholique. Donc reprenons tout simplement les conditions d'appartenance à l'Église. Il y en a quatre, dit le catéchisme. Première, c'est le baptême, évidemment. La deuxième, saint Pédis dit, c'est la vraie foi. La vraie foi avec la pratique de la foi. Pourquoi est-ce qu'il parle de la vraie foi? Sous-entendu, c'est parce qu'il y a une fausse. Il peut y avoir une fausse foi qui se promène. La foi prêchée par Bergoglio à Rome, elle n'est plus la vraie foi. Quand Bergoglio nous sort que un musulman, par exemple, est un enfant de Dieu, c'est pas la vraie foi. Un musulman est une créature de Dieu, évidemment. Mais un enfant de Dieu, on est enfant de Dieu par le baptême. Et la vraie foi doit s'associer à la pratique de la foi. Sinon, on tombe dans le protestantisme. Les protestants prétendent qu'on peut être sauvé que par la foi. Non, on est sauvé par les œuvres de la foi. Et quelle est la première œuvre de la foi? La première œuvre de la foi, c'est la pratique de la charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? L'amour de la vérité. Est-ce qu'il peut y avoir charité sans amour de la vérité? Bien sûr que non. Donc la première preuve d'amour du bon Dieu que nous puissions lui donner, c'est de suivre ses commandements. Imaginez quelqu'un qui dise au bon Dieu, voilà, je vous aime de tout mon cœur, et vos commandements, j'en ai rien à faire. Cet amour que cette personne prétend avoir pour Dieu est un faux amour. Imaginez un époux qui dit à son épouse, je t'aime de tout mon cœur, mais qui va tranquillement avec la femme du voisin. Ben, cet amour serait évidemment faux. C'est moins évident. Pourquoi? Parce qu'on prouve l'amour qu'on a pour quelqu'un seulement par sa façon de se conduire. On prouve l'amour qu'on a pour le bon Dieu en suivant la loi du bon Dieu. Donc c'est ça que nous explique l'évangile d'aujourd'hui. L'importance de cette de cet amour de Dieu, de cet amour de l'Église. Il faut aimer l'Église. Une des choses qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est comment les médias travaillent pour pousser les catholiques à avoir honte de l'Église catholique. C'est terrible aujourd'hui. Et quand on dit catholique, les gens, ah, catholique, mais c'est les bûchers du Moyen Âge, c'est les bûchers de l'Inquisition, c'est les épouvantables croisades, avec ces évêques et ces papes qui se réjouissaient en entendant les hurlements de ces pauvres hérétiques absolument innocents qui brûlaient dans les bûchers. Et puis c'est l'Espagne catholique qui va convertir et obliger ces pauvres Aztèques qui vivaient dans une merveilleuse religion de paix, de tranquillité, et qui les tuent tous. Et les gens croient toutes ces bêtises. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être fier de sa foi catholique. En tant que prêtre, je suis fier d'être catholique. Il faut remercier le bon Dieu tous les jours de l'être catholique. C'est une grâce qu'il ne donne pas à tout le monde. En face, on a des gens qui suivent la doctrine de Voltaire. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. C'est exactement ce qui se passe. Donc, il faut retrouver, surtout avec l'évangile d'aujourd'hui, l'amour de la foi catholique, l'amour de l'Église catholique. Sans oublier la dernière condition, deux dernières conditions que nous donne le catéchisme traditionnel concernant l'appartenance à l'Église. Donc, première condition, le baptême. Deuxième condition, la vraie foi avec la pratique de la foi. Troisième condition, l'usage des sacrements. Puisque nous sommes tout petits devant une immense société qui cherche à nous écrabouiller comme un gros rouleau compresseur et essaie d'écrabouiller une petite souris, on a besoin de la confession, on a besoin de la communion, on a besoin des sacrements. Sinon, on a un membre mort de l'Église catholique. Et enfin, dernière condition qu'il faut sérieusement pratiquer aujourd'hui plus que jamais, c'est reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. De reconnaître tous les papes, depuis Saint-Pierre jusqu'au dernier pape, Pie XII, qui est mort en 1958, comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire représentant de notre Seigneur Jésus-Christ et successeur de Saint-Pierre. Attention, le pape n'est pas successeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le pape était successeur de notre Seigneur Jésus-Christ, il serait Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, pas le pape. Le pape, il est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Son rôle est lequel? Son rôle est de garder le dépôt de la foi. Dépôt de la foi qui n'appartient pas au pape qui appartient à l'Église. C'est pour ça que l'Église enseigne que le dépôt de la foi est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. Donc le rôle du pape, c'est de conserver le dépôt de la foi catholique. Voilà ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que le bon Dieu lui a donné un don extraordinaire, le don d'infaillibilité, pour que dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, quand il parle comme pape sur la foi, les mœurs, l'intention d'obliger toute l'Église, il est infaillible, c'est Dieu qui parle. Et ça, c'est une aide extraordinaire pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas besoin d'une sortie de polytechnique pour savoir que l'homme à Rome qui actuellement se présente comme pape n'a aucun désir de garder le dépôt de la foi, fait tout pour le détruire. Peut-il être pape? Bien sûr que non. Devons-nous pour autant perdre l'amour de l'Église? Bien sûr que non. Devons-nous dire pour autant, ben voilà, il n'y a plus de pape, donc on n'a plus besoin de pape? Bien sûr que non. Donc il faut garder et l'amour de l'Église et l'amour de la papauté, surtout aujourd'hui. Je dis toujours, je me permets de le répéter, parce que c'est pour moi des choses très importantes, qu'il faudrait avoir toujours trois choses dans une église, dans une maison catholique. Par le crucifix, bien sûr, qui nous rappelle la rédemption. Il faut avoir une belle image de la Sainte Vierge et une belle image d'un pape. On va avoir sur Internet très facilement des très belles images de Saint Pie X ou de Saint Pie V, ici au fond d'ailleurs. Mais auparavant, là, j'ai ce très beau buste du pape Pie IX, un des plus grands papes de l'histoire de l'Église catholique. Donc il faut demander à la Très Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est, elle est médiatrice de toutes les grâces, il faut lui demander cette grâce d'aimer l'Église, de garder l'amour de l'Église, de garder l'amour de la papauté, aujourd'hui plus que jamais. Parce que justement, l'Église est fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est continué dans l'Église, dans l'histoire de l'humanité, par l'intermédiaire du pape. Regardez ce qui se passe depuis qu'on n'en a plus justement de pape. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tranquillement faire la sieste en disant, bon, on peut vivre très bien sans pape, tout se passe très bien. Non, il faut pleurer des larmes de sang pour demander au bon Dieu de nous rendre un pape. Que le bon Dieu nous donne à Saint Pie X. Et il faut demander, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Mais si on ne frappe pas, si on ne cherche pas, si on ne demande pas, on n'a rien du tout. On dit qu'on a les chefs qu'on mérite. C'est Sapidis qui disait ça. On a les chefs qu'on mérite. Donc on peut dire on a les chefs politiques qu'on mérite et on a peut-être bien aussi les chefs religieux qu'on mérite. Alors, ne nous décourageons pas, mais comprenons que puisque notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique pasteur, puisque le troupeau de l'Église catholique, c'est l'unique troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ, et que notre Seigneur Jésus-Christ demande qu'une seule chose, c'est que toutes les brebis soient dans le même troupeau, demandons la grâce d'être faire partie de ce troupeau. C'est pas quelque chose d'automatique. Il y a des millions de personnes qui sont hors de ce troupeau. Qu'est-ce qu'il faut? Prier et demander la grâce de la fidélité, la grâce de la persévérance. Et la fidélité, c'est une fleur, c'est un fruit extraordinaire. Vous voulez un beau fruit, on commence par avoir une terre bien préparée, ça c'est l'humilité. Après, il va y avoir la plante qui va pousser à partir de l'humilité, ça c'est la vertu d'obéissance. Puis après, la fleur, c'est la charité, et cette charité va donner un fruit. Ce fruit, c'est la grâce de la fidélité. Et la grâce qu'il faut demander, par-dessus tout, qui est la grâce la plus importante, en fait, c'est la fidélité qui doit se manifester jusqu'à la mort. Ça sert à quoi d'être fidèle dans la journée si on est infidèle pendant la nuit? Ça sert à quoi d'être fidèle pendant la journée si au soir de notre vie, au moment de la mort, on meurt comme un infidèle? Non, il faut demander la grâce de la persévérance finale. C'est ça la grâce de la grâce. On dit que la grâce des grâces, c'est la grâce de la persévérance finale. Mourir en état de grâce. Est-ce qu'on peut dire, j'ai pas besoin du bon Dieu pour être en état de grâce le jour de ma mort? Ah, quelle bêtise! Rappelez-vous Saint Philippe Néri qui disait tout le temps: Oh mon Dieu, gardez Philippe dans vos mains, parce que sans votre grâce, d'ici soir, je suis suffisamment bête pour me faire moi mes torts. On n'est pas plus malin que Saint Philippe Néri. Alors il faut demander cette grâce. Et le deuxième message qui nous est donné par ces deux textes magnifiques, et puis de Saint Pierre et l'évangile de Saint Jean, dans ce dimanche du bon pasteur, il faut demander une autre grâce spécifique, qui dépend de la première. Il faut demander la haine du péché. Qu'on n'entende plus ce qu'on entend tout le temps maintenant, même parfois à la bouche des catholiques, mais tout le monde le fait. Et alors? Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu démocrate. La vérité de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas soumise au nombre. On se moque complètement du nombre de gens qui suivent la vérité. La vérité n'a rien à voir avec le nombre. C'est ça qu'il faut impérativement comprendre. Dieu haït le péché, a de la haine pour le péché. Il y a tellement de haine pour le péché que pour écrabouiller ce péché, il a fallu qu'il meure sur la croix. Alors les gens nous disent: Ah, oh, ce n'est pas si grave que ça, le péché, la preuve, c'est que tout le monde le fait. Réponse, elle est toute simple. Si ce n'est pas si grave que ça, pourquoi est-ce que la première personne de la Sainte Trinité, notre Dieu le Père, a-t-il dû envoyer son propre Fils pour prendre une nature humaine afin de pouvoir souffrir et mourir comme le dernier des esclaves, écrabouillé sur une croix, justement pour réparer ce péché? Il faut deux choses, il faut la haine du péché et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui diligitis dominum, olite manum, nous dit le prophète David. Celui qui aime le Seigneur doit haïr le péché. Il ne peut pas prétendre aimer notre Seigneur Jésus-Christ sans haïr le péché, c'est impossible, c'est l'hypocrisie. Si on haït le péché, il faut aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Et le bon Dieu a de la haine pour le péché, mais il est plein d'amour, attention, pour le pécheur repentant. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain, rappelez-vous la parabole de l'enfant prodigue, c'est exactement ça. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre vous. Notre Seigneur Jésus-Christ pardonne. Il ne pardonne pas une fois, il a dit à Saint-Pierre, il pardonnera 70 fois cette fois. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde pour le pécheur repentant, mais malheureusement, le pécheur qui refuse de se convertir, le pécheur qui, dans son orgueil, se dresse devant notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire: Je ne servirai pas. Alors là, malheureusement, le bon Dieu est obligé d'avoir de la haine pour ce pécheur. Oui, Dieu peut avoir de la haine pour un pécheur qui refuse de se convertir. Dieu donne à chacun d'entre nous les grâces de conversion dont nous avons besoin. Tous, nous les recevrons. Mais ces grâces dépendent aussi de la réponse à ces grâces. Et le bon Dieu, encore une fois, ne va pas nous sauver contre notre volonté. Le bon Dieu nous sauve en nous demandant une participation justement à cette volonté divine de nous sauver tous. Il nous donne toutes les grâces, il faut qu'on les accepte. Hélas, beaucoup les refusent. L'exemple classique, c'est les deux larrons. Il y a deux personnes à côté de la croix. Il y a Dismas et Agestas. Un qui se convertit et qui va dire à notre Seigneur, souvenez-vous de moi, quand vous serez dans votre royaume, et fait un acte de foi, d'espérance et de charité. Qu'est-ce que fait notre Seigneur? Bon, d'abord 5 siècles au purgatoire, on verra après. Non, aujourd'hui même, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Bon Dieu efface tout. Il a vu la foi de Saint Dismas, son espérance, sa charité, il efface. Il prend l'ardoise, il efface l'ardoise. C'est fini, terminé. Tu me devais des millions, des millions, des millions d'euros. Tu ne me dois plus rien. Je te prends au paradis tout de suite. Et l'autre? Il n'était pas plus éloigné, notre Seigneur Jésus-Christ, que son copain. L'autre, Gestas, lui, ne fait pas comme Dismas, refuse de se convertir et continue d'injurier notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il avait fait, s'il avait prononcé la même parole que Saint Dismas a prononcée, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume, moi aussi, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Il y aurait eu un Saint Gestas. Malheureusement, il n'y a qu'un des deux qui a été canonisé par l'Église, pas l'autre. Alors, mes bien chers frères, il faut demander aussi à la Très Sainte Vierge Marie, à la fois l'amour de l'Église, l'amour de la papauté, mais il faut aussi demander à l'Église, à la Très Sainte Vierge Marie, de donner la haine du péché. Et d'avoir toujours en notre cœur, justement, ce grand désir d'être un pécheur repentant. Nous étions comme des brebis sans pasteur, nous dit Saint Pierre, et il nous faut revenir à l'évêque, au pasteur de nos âmes. Qui est le pasteur de nos âmes? Notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme est grand quand il sait se mettre à genoux devant le représentant de ce pasteur de notre Seigneur Jésus-Christ et dire à ce représentant, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. C'est quand l'homme devient grand. Quand l'homme garde cet amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, quand l'homme garde l'amour pour la papauté, garde la haine du péché et a cette repentance de ses péchés, à ce moment-là, il devient grand. Parce qu'il avait l'image de Dieu, il vient aussi créé à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, Dieu a créé tous les hommes à son image. Mais il prendra au ciel pas ceux qui sont simplement à son image, il prendra au ciel ceux qui sont à son image et à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu, c'est quoi? C'est la charité. L'image ne suffit pas. On a tous l'image de Dieu en nous, parce que Dieu est un esprit et qu'on a. En notre nature humaine, on a une âme, une substance spirituelle justement douée d'intelligence et de volonté capable de connaître Dieu et de le posséder. Ça ne suffit pas pour aller au ciel, sinon tous les hommes seraient sauvés. Mais le bon Dieu rajoute une deuxième condition, il faut être aussi à ma ressemblance. Et comment est-on à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ? Justement en pratiquant cette charité qui a conduit notre Seigneur Jésus-Christ à mourir pour chacun d'entre nous sur la croix. C'est ça la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et nous, une fois qu'on a compris cela, on comprend que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde extraordinaire, ne demande qu'une seule chose, c'est à pardonner aux pécheurs repentants. Et malheur aux pécheurs qui refusent de se convertir. Parce qu'à ce moment-là, le bon Dieu est obligé de se couper de cette vertu de charité. Les pécheurs qui refusent de se convertir, c'est l'enfant qui coupe le cordon ombilical qui le maintenait en survie. Parce que justement, il recevait de sa mère, par ce cordon ombilical, les nutritifs, les nutriments, toute la nourriture dont il avait besoin pour rester en vie. Il coupe le cordon ombilical, il meurt immédiatement parce qu'il ne peut pas survivre sans le sang de sa mère. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut demander. Et le bon Dieu s'est abaissé pour nous sortir de la déchéance dans laquelle nous étions vautrés, nous dit l'oraison d'aujourd'hui. Il s'est abaissé, l'abaissement le plus total par l'incarnation, acceptant de prendre une nature humaine, lui qui est Dieu, Dieu immortel, Dieu tout-puissant, Dieu qui connaît tout, Dieu qui sait tout, Dieu pur esprit, Dieu éternel, s'abaisse à prendre une nature mortelle. Il a accepté d'avoir faim et soif, de souffrir comme tous les mortels, devenant l'imitateur de tous les mortels sauf le péché, pour nous sortir de la déchéance du péché. Il prend l'enfant qui est son enfant est en train de s'enfoncer dans le sable mouvant, dans la boue jusqu'au cou, et il le tire de cette boue pour l'amener au ciel. C'est presque une folie. Et c'est pourtant ce que notre Seigneur Jésus-Christ souhaite de faire avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui plus que jamais. Certes, dans les temps du Moyen Âge, ce que dit le pape Léon XIII, il disait, il y a eu des temps où l'évangile était prêché dans le monde entier. Et l'évangile était suivi. Malheureusement, le bon Dieu permet que nous vivions dans un temps où l'homme se prend pour Dieu, où Dieu a été mis dehors. Le paganisme a pris la place. Le paganisme a pris la place du catholicisme. Ça, je vous conseille, pour ceux qui ont le temps d'écouter toutes ces conférences sur l'œuvre admirable de Monseigneur Gaume, j'ai presque terminé ces conférences, j'ai déjà fait 35, je pense qu'il y en a encore 5 ou 6, qui sont maintenant sur YouTube, qui sont sur le site internet, justement sur l'œuvre extraordinaire de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Et tout son thème est là. La révolution, c'est l'introduction du paganisme dans l'intelligence des gens pour que l'intelligence se révolte contre la volonté, que la volonté n'ait plus de pouvoir pour les passions et qu'enfin les passions tombent dans le sensualisme païen de l'Antiquité, repris par l'esprit du Moyen Âge et qui, par l'esprit, pardon, de la Renaissance après le Moyen Âge justement, et qui nous ramène vers l'enfer. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a? L'armée des apôtres, l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, il était plus facile de se sauver quand on avait Saint-Louis, Saint-Thomas, Saint-Thomas d'Aquin qui prêchait dans toutes les rues, c'est évident. Mais le bon Dieu permet qu'on vive en 2020 avec un pays complètement païen, une poubelle en état de décomposition avancée. Mais il vous donne, il me donne, il nous donne à tous les grâces dont vous et moi on a besoin pour se sauver, même dans la poubelle. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et voilà ce qu'il faut demander à la Sainte Vierge. N'oublions pas que le titre que l'Église a donné pour ce dimanche, le dimanche du bon pasteur. Notre Seigneur Jésus-Christ est un bon pasteur, à nous d'être des bonnes brebis. On peut se révolter contre le pasteur. Et on peut aussi suivre le bon pasteur. Et quand, malheureusement, le pasteur humain voulu par notre Seigneur Jésus-Christ fait défaillance, c'est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse dévorer par le loup? C'est Don Guéranger qui disait, lorsque le pasteur fait défaillance, qu'il n'organise plus la lutte contre le loup, la brebis la plus courageuse, elle prend la tête du troupeau, elle organise la chasse au loup, elle organise le combat contre le loup pour protéger le troupeau. Et s'il faut, elle apprend à mordre le loup. Le problème, dit Don Guéranger, c'est qu'en faisant ça, elle prend le goût du sang. Et c'est un peu vrai. C'est le danger, je pense, pour chacun d'entre nous. C'est justement parce que le bon Dieu permet dans sa miséricorde que nous soyons orphelins d'autorité depuis maintenant plus de 60 ans. On a peut-être la tentation, là, tous, moi le premier, de se dire finalement on peut très bien s'en tirer tout seul sans le bon Dieu et sans un pape. Non, nous avons besoin de l'Église, nous avons besoin d'un pape, nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut prier pour rester membre de cette église. On n'a pas besoin de prier pour que Dieu reste toujours Dieu, parce que ça, ce côté-là, il n'y aura pas de problème, il sera toujours Dieu. Mais il faut aussi prier pour que le bon Dieu nous rende un pape. Il faut demander ça avec beaucoup d'humilité. Donc demandons toutes ces choses tellement importantes pour nous. Demandons-les, pardon, par la très sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, elle sait ce qu'elle fait parce qu'elle est mère de Dieu. Elle est mère du Verbe incarné. Est-ce que vous croyez que la très sainte Vierge Marie, une seule seconde, a pu avoir un doute? Dans les blasphèmes épouvantables de Bergoglio, il a prétendu aussi que la très sainte Vierge Marie avait douté. Cette Vierge n'a jamais douté. Pas l'ombre d'un doute en elle. Justement parce qu'elle était mère de Dieu, qu'elle savait que son fils était Dieu. Et le soir du Vendredi Saint, alors que tout le monde avait douté, avait perdu la foi, elle reste. Stabat Mater juxta crucem dolorosa. Elle se tient debout au pied de la croix, forte comme une armée en bataille, pour nous montrer l'exemple. Elle nous prend par la main, comme elle a dû prendre Saint Jean par la main, pour le maintenir au pied de la croix. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Alors, Passons par la Sainte Vierge Marie, n'oubliez pas votre chapelet tous les jours, très important pour les temps qui courent. C'est une cuirasse extraordinaire contre le démon et organisons la grande bagarre d'abord contre notre volonté propre. La vie des catholiques, c'est ça. C'est la lutte entre deux volontés. La volonté de notre Seigneur d'une part, notre volonté propre d'autre part. La lutte de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ en nous contre la volonté du monde. Soit les trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, soit les trois concupiscences de la chair, de l'orgueil et des yeux. Et nous sommes libres de faire ce choix. Malheureusement, nous avons cette liberté. Nous n'avons pas de liberté de choisir la fin pour laquelle nous sommes créés, parce que ça, c'est le bon Dieu qui s'en charge. Mais nous avons la liberté de choisir les moyens pour atteindre cette fin. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie de choisir toujours les meilleurs moyens. Les meilleurs moyens, ils passent par l'humilité, passent par l'obéissance, passent par la charité, passent par la pratique des sacrements et de garder coûte que coûte la foi que nous a transmise l'Église pendant des siècles et des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.